Tu veux nous parler des sondages ?
Alors, pourquoi les sondages ?
Pour rapporter de l'argent aux instituts de sondage.
Par rapport à cette réponse, je crois que ce n'est pas entièrement vrai, parce que sur les élections, les instituts de sondage gagnent très peu d'argent, quoi. Ça leur sert de vitrine pour leur sondage payant qu'ils proposent aux entreprises, aux politiques, etc.
Ok, parfait, super introduction. Du coup, l'idée des sondages, à la base, c'était pour mettre en chiffres des faits sociaux que les gens qui étaient au pouvoir n'y comprenaient pas. Et donc, en fait, ça a commencé avec Louis XV. Un jour, il a diffusé une rumeur. Il a dit, alors je ne sais plus vraiment l'histoire, mais en gros, il a diffusé une rumeur auprès de la population. Il a demandé à des gens, est-ce que vous pouvez savoir combien de personnes étaient d'accord avec ce truc et combien de personnes ne l'étaient pas ? Et hop, les gens sont revenus avec des tableaux et des chiffres qui permettaient de donner l'opinion des gens. Et ça, c'était le tout début des sondages. Donc, c'est quand même un truc pas très neuf. Voilà, donc le sondage, c'est quoi un sondage ? En fait, c'est une enquête qui est faite auprès d'un petit nombre de personnes qui est censée représenter la totalité des autres. Alors, ensuite, on interroge qui ? Haha, ça c'est une bonne question. Alors, au début, ils faisaient avec des échantillons aléatoires, c'est-à-dire qu'ils prenaient la liste des citoyens inscrits ou je sais pas, et ils piochaient au hasard un nombre énorme de personnes. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Georges Galup qui s'est dit « Mais attends, on va faire des échantillons représentatifs. » C'est-à-dire qu'au lieu de piocher n'importe qui sur le bottin, lui, il va dire « On va prendre 51% de femmes, différents types de catégories sociales. » Et ça, c'est un échantillon représentatif qui est à l'image de la société, de la population étudiée. Et donc ça, c'est lui qui a eu cette super bonne idée-là, et c'était la révolution à l'époque, en 1935, parce que lui, avec seulement 10 000 personnes interrogées, il a réussi à avoir un pronostic juste par rapport à d'autres instituts de sondage qui faisaient des trucs avec 400 000 personnes, et qui étaient fausses. Voilà, donc c'était une grosse révolution. Et ensuite, qui répond au sondage ? Alors, les méthodes, elles ont un petit peu évolué. Parce qu'en fait, au début, ils faisaient du porte-à-porte. Et après, il y avait de moins en moins de gens qui ouvraient les portes. Alors après, ils ont appelé les gens. Mais il y avait de moins en moins de gens qui répondaient au téléphone. Et après, ils sont passés sur Internet. Mais il y avait de moins en moins de gens qui répondaient par Internet. Donc maintenant, ils font des trucs en mode « tu reçois des cadeaux ». Maintenant, c'est des personnes volontaires. Et ils ont sorti un nouveau truc. Ça s'appelle le « panel access ». Alors ça, c'est un truc de marketing. Alors un panel access, c'est quoi ? C'est une liste déjà toute faite de personnes représentatives que des instituts de sondage possèdent. Donc en gros, eux, ils vendent leur liste de personnes. Et ces personnes-là, c'est des gens qui sont sollicités en permanence sur plein de trucs. Sur le nouveau robot qui vient de sortir, sur les élections présidentielles, sur tout plein de choses. Et en fait, ces gens-là, ils reçoivent plein de cadeaux. Donc, le nouveau robot qui vient de sortir, enfin voilà, tout plein de choses.
Mais le fait d'être payé, ça incite des gens à en faire un revenu et donc à participer à des sondages en trompant l'Institut de sondage sur leur âge, par exemple, et en répondant un peu n'importe quoi, de manière à gagner les 70 centimes ou 1 euro qu'ils vont gagner à chaque fois qu'ils vont répondre à un sondage. Le fait d'être payant, finalement, rend l'échantillonnage moins crédible.
Si ça fonctionne comme ça, et je le suppose, ça veut dire que, bien évidemment, il y a des personnes qui ont envie de le faire parce qu'elles n'ont rien d'autre à faire pour avoir des cadeaux. Je suppose que tous les toubibs, tous les nantis, ils font pas ce genre de choses. Donc le sondage n'est pas du tout représentatif. Et on se fait tromper, et finalement, c'est une énorme imposture.
Naturellement, étant donné que c'est des personnes volontaires qui maintenant répondent au sondage, il est forcément plus représentatif. Parce que ça peut être des gens qui, par exemple, sur des sondages d'opinion politique, c'est des gens qui sont d'abord plus ou moins d'accord avec le système tel qu'il est aujourd'hui. En gros, ni des monarchistes, ni des anarchistes, quoi. Et donc, il y a ça. Et puis après, il y a plein d'autres raisons qui font que c'est pas 100% représentatif. Alors du coup, pour les marges d'erreur, moi, ce que j'avais noté, c'était, oui, cette idée de plus ou moins 3%, alors que ça soit suivi aux marges d'erreur, je ne connais pas le vocabulaire. Et après, il y avait un autre truc qui s'appelle le redressement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre échantillon, il a beau être représentatif, il n'est pas à 100%. Et ça, c'est, enfin, même les instituts de sondage le savent. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que avant de poser la question hypothétique, ils posent la question sur des comportements qu'ils ont déjà eus. Par exemple, si on imagine que dimanche, premier tour des élections présidentielles est passé, et finalement, c'est Jean Lassalle, il a 35% au premier tour. Voilà, donc hop, il est au deuxième tour. Et si institut de sondage avait sur le même échantillon, donc avec les mêmes personnes, avant l'élection, remarqué que sur cet échantillon-là, eux, ils avaient vu que 5% de Jean Lassalle, alors que finalement, en vrai, la France, elle pense 35, eh ben, ça veut dire que pour le deuxième tour, eh ben, ils vont avoir des marges d'ajustement, de redressement. Et ils savent que leur échantillon, il n'est pas hyper représentatif sur le vote Jean Lassalle. Et donc, ils vont multiplier par 7 les résultats Jean Lassalle qu'ils vont avoir sur leur échantillon. Aujourd'hui, en France, il y a 12 instituts de sondage. Et en fait, ce redressement-là, donc les petits calculs et les algorithmes, chaque institut de sondage a ses propres façons de le calculer. Et c'est un petit peu la petite cuisine des instituts de sondage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces instituts-là sont dans une position concurrentielle, là, c'est à qui va avoir le meilleur algorithme et la meilleure formule de redressement. Et en fait, il y a une commission des sondages au niveau national qui est censée réguler tout ça, et il y a une loi sur la publication des marges d'erreur et sur la publication des formules de redressement. Et en fait, les instituts de sondage, ils sont en train de contourner un petit peu tout ça pour éviter d'avoir à publier leur petite recette secrète qui fait qu'ils ont plein de contrats juste après. Et donc après, ça a plein d'impacts tels qu'on a vu, tels que le vote stratégique. Tout à l'heure, on disait, il y avait un truc, de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que si on est persuadé qu'on aura tel candidat au second tour, et ben finalement, on l'aura quand même parce qu'on se l'est resté dans la tête et on ne va pas aller à l'encontre de ça. Et donc c'est toute une petite chose qui s'alimente les unes après les autres.
En fait, c'est une preuve de toute notre façon de discuter, d'avancer les arguments et tout ça. En fait, c'est aussi, on a subi cet intox et on l'a subi depuis un moment. Et c'est pour ça qu'on on en vient à dire, faut faire gaffe, parce que du coup, la peur se développe. Et du coup, cette peur-là va aussi faire en sorte qu'on va voter plutôt comme ci, comme ça, etc. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs maintenant. Et ça fait un moment, et c'est ça qui est, on subit tout ça, et c'est ça qui est révoltant. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on va voter un tel ou une telle ?
Je pense que nous ne subissons pas tout ça, et qu'il y a des gens qui sont capables de faire abstraction des résultats des sondages, puisque l'on sait que les sondages ne valent que ce qu'ils valent, mais ont une tendance manipulatoire.
Oui, les sondages, quoi. C'est, il faut quand même souligner que ce scrutin est quand même marqué par des choses un peu différentes des autres scrutins présidentiels, quoi. Avec la course en tête de 4 candidats qui peuvent se retrouver au deuxième tour. Cet élément-là, ça fausse complètement le jugement des gens. Voilà. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'on a raison ? Est-ce qu'on a tort ? On ne sait pas, mais on est obligé de rentrer dans ce jeu. Et de prévoir des votes tactiques qui vont finir par un système du billard à 3 bandes pour savoir qui on ne veut pas voir élu, qui on veut voir élu, quoi. C'est complètement faussé, quoi. C'est aussi le témoignage d'un système qui est complètement à bout de souffle, quoi, qui explose, donc avec l'explosion des partis possibles. C'est vraiment un embrouille à mini dont c'est difficile de sortir.
Tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'on tombe tous dans cet intox en disant, voilà, il y a 4 candidats, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Qu'est-ce qui nous dit qu'il y aura 4 candidats ? C'est quoi ? C'est les médias qui nous disent ça ? C'est les candidats eux-mêmes qui nous disent ça ? C'est quoi cette histoire, quoi ? Et pourquoi on croit plutôt ça qu'autre chose ? Et c'est ça qui fait en sorte qu'après, effectivement, il n'y aura que 4 candidats. Et c'est ça qui est un peu désagréable dans cette histoire-là, parce que du coup, ça veut dire quoi ? Qu'il n'y a pas de chance pour personne, quoi, à part les gens qui sont portés par les uns et les autres. Et du coup, ça y est, c'est devenu dans nos tronches, c'est clair, net et précis, il y a 4 candidats qui vont se présenter. C'est plus les autres, ils n'existent plus. C'est quoi cette histoire ?
Je comprends que tu t'insurges.
On les appelle petits, quoi.
Je ne cherche pas à légitimer le sort réservé à ces petits candidats. On connaît les scores répétés d'élection en élection de partis, même avec la sortie magnifique de Poutou sur l'immunité ouvrière, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Mais personne n'imagine que tout d'un coup, il va être au deuxième tour avec 25%.
Finalement, c'est seulement depuis 2012 qu'on se soucie de voter stratégique en masse. 2002, excusez-moi. Mais il me semble que depuis que ce parti antidémocratique a des risques d'être au deuxième tour, alors nos votes sont devenus plus stratégiques et je ne suis pas convaincue que ça soit un problème. Au contraire, ça veut dire que ça nous alerte et qu'on est conscient du danger.
Oui, moi je pense que cette histoire de sondage, la différence par rapport à des élections précédentes, c'est qu'on sait que ces sondages ne sont pas, ont leurs limites, que c'est pas forcément quelque chose d'exact, et on en parle dans la presse quand même suffisamment. Donc il y a cette distance. Après, je voudrais juste, il y a aussi les réseaux sociaux qui interviennent, et donc il y a une initiative là, qui est sortie là, par rapport à YouTube et de regarder quelles sont les vidéos qui sont recommandées dans le volet à droite de YouTube. Il y a les vidéos à suivre. Et donc, quand on prend l'ensemble des candidats, des 11 candidats, qu'ils soient grands ou petits, il y a une vidéo qui est systématiquement surreprésentée. Quel est le candidat ? Donc, c'est un quiz. Quel est le candidat le plus représenté, le plus suggéré dans ces vidéos à suivre, quel que soit le candidat qu'on regarde, la salle, Mélenchon, etc. Est-ce que vous savez ? Asselineau est le plus représenté. Voilà. Donc, vous allez voir sur algotransparency.org. C'est étonnant.
Je voudrais simplement vous dire qu'il semblerait que le vote, c'est quelque chose de très ancien pour désigner le chef. Et en fait, le système le plus couramment utilisé dans le vote, c'était le système à un tour. C'est-à-dire qu'on votait et celui qui avait le plus de voix était élu. Ce droit de voter contre ses idées, tout ce qu'on vient de dire sur le fait du vote stratégique, du vote utile, c'est aussi parce qu'on a un système à deux tours, enfin à mon sens, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, si on avait un système qui consiste à avoir des candidats, voire même, parce que ça existe, à pouvoir désigner soi-même ses candidats et puis celui qui a le plus de voix est élu. Est-ce que ça aurait la même implication ?
C'est pas un ou deux tours qu'il faudrait choisir, mais supprimer les sondages. Et là, on serait obligé de choisir selon nos convictions. Et il n'y aurait plus d'influence.
Pour moi, la nouveauté qu'il y a aujourd'hui, qui se développe depuis un certain temps, c'est le principe d'incertitude. C'est-à-dire qu'on est à ne pas savoir ce qui va en sortir. Avant, on était dans une histoire droite-gauche, c'était assez simple. Une alternance possible, etc. Et puis tout était relativement joué avec la position du centre, etc. Aujourd'hui, on est complètement sorti de ça. Les candidats anti-système sont majoritaires. Sachant qu'on peut se poser la question de savoir s'ils sont dans ou pas dans le système, enfin en tout cas dans le système droite-gauche précédent, et que du coup on est dans un principe d'incertitude absolue dont on ne sait pas du tout ce qui va sortir, ce qui est quand même assez angoissant finalement. Est-ce qu'on reste dans cette peur qui se développe d'avoir dans la gueule un résultat terrible ? Ou bien est-ce qu'on garde quand même une certaine radicalité par rapport aux idées qu'on veut défendre ? Et ça, pour moi, c'était un peu une question fondamentale qu'on avait envie de mettre sur la table.
Bon, du coup, il est un peu tard, là. Et l'idée, c'était de savoir s'il y avait d'autres personnes qui voulaient s'exprimer sur ce thème de la radicalité.
Je doute radicalement.
Merci à vous tous pour avoir participé à ces échanges et d'être restés courtois et bienveillants.
Ensemble, Ici.
Radio Libre.
Radio Libre.
La radio des initiatives.